Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, c'est un documentaire consacré aux orphelins de la Shoah qui est au sommaire de l'émission. Un film qui retrace le parcours des enfants juifs qui sont passés par les colonies et les maisons d'enfants de Montmorency, avant, pendant et après la guerre. On y rencontre une dizaine de personnes aujourd'hui âgées qui revivent pour la caméra de José et nous ces années d'enfance volées où ils ont dû fuir avec leurs parents, se séparer d'eux ou les voir se faire arrêter par la police française, où ils ont dû s'installer dans de nouveaux lieux, dans de nouvelles vies, dans le provisoire et la séparation, vivre cachés, pour enfin réapprendre à vivre sans leurs parents, avec d'autres enfants désormais orphelins. Dans ces maisons d'enfants mises en place par les organisations juives de sauvetage, ils ont réinventé des familles, des attaches et des liens. Avec nous pour en parler aujourd'hui, le réalisateur de ce documentaire, José Hénouz. Bonjour.
Bonjour.
Alors, votre film commence par la lecture d'un texte, qui est très émouvant, qui est celui d'un enfant qui se souvient d'une scène entre son père et sa mère, tous deux immigrés à Paris. Donc, du père qui évoque les mauvais traitements faits aux Juifs en Autriche et de la mère qui dit « chut, attention aux enfants ». Donc, c'est à la fois cette habitude de ne pas parler de choses qui effraient les enfants devant eux, et puis une façon de dire que les enfants comprennent tout malgré tout. Et puis, c'est aussi le titre de votre documentaire.
Oui, c'est un extrait d'un documentaire qui a été réalisé par la sœur d'un témoin, Armand Borokovitch, sa sœur Simone Borokovitch, qui a fait ce documentaire en 1942. Et Armand m'avait demandé, vraiment avec beaucoup d'insistance, en souvenir et en hommage à sa sœur, de mettre un extrait de son film, parce que après la guerre, elle est retournée vivre dans la maison de ses parents, pur hasard, et elle n'a pas pu supporter cette vie, et au bout d'un moment, elle s'est suicidée, après avoir fait ce film. Et Armand m'avait demandé si je pouvais trouver dans le film un moment pour mettre un extrait. Et très sincèrement, l'ayant vu, la phrase de la maman qui dit « Attention aux enfants » m'a paru être une évidence comme titre du film, c'est-à-dire le problème de cette souffrance d'enfant et le problème des parents ou d'institutions juives ou de particuliers non-juifs qui vont tout faire pour sauver ces enfants. Le titre s'est imposé de lui-même et cet extrait en même temps, mais cet extrait on l'a mis tout de suite en contrepoint avec des images des années 33 où on voit des nazis qui vocifèrent pour bien montrer le climat de l'Allemagne, de Berlin de l'époque. Et juste après, on entend des personnes qui disent « Je m'appelle ». Et on revient au nom, au mot, à la parole. Le mot reprend toute sa force. Parce qu'au fond, c'est un film sur le mot et la parole. Retrouver. Ce film, c'est cela. Ce sont des personnes qui, pendant de longues années, ont refusé de parler de ce moment d'enfance, de ce moment de traumatisme, d'anxiété, de culpabilité. Et se sont mis à parler à partir de l'âge de 70, 75 ans. Et depuis, c'est « Il déverse ». 3 ans de tournage, je crois que pendant 3 ans, je n'ai fait qu'écouter. Écouter. La première année, sans aucun micro, sans aucune caméra. Et après, j'écoutais, je filmais. On me rappelait fréquemment pour me dire « Je me rappelle d'eux ». Comme si la mémoire remontait. On a quelque chose là qui est très important, de mémoire qui remonte avec des incertitudes, des grumeaux, des aspects qui sont cohérents, des erreurs parfois. Mais ce n'est pas très grave, c'est la parole retrouvée. J'ai presque envie de dire la parole et l'humanité retrouvée. On reprend possession de son humanité. Joël Krolik, Rachel, Maurice Zelti, Ferdi, Charles. Vous voyez, je cite des noms parce que les noms sont importants.
Oui, effectivement, José, nous, on sent bien cette importance de la parole, cette importance de la mémoire qui ressurgit, qui rejaillit. Et d'ailleurs, vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs pour faire ressurgir cette mémoire. Vous les emmenez sur les lieux où ils ont vécu. Alors, il y a ceux qui se souviennent, ceux qui ne se souviennent pas, ceux qui sont ravis de ne pas se souvenir, au contraire, ceux qui le déplorent. Il y a comme ça tout un jeu autour de la mémoire. Et puis, il y a aussi les photos. Vous avez retrouvé énormément de documentation. Donc, c'est un film très riche où, effectivement, la mémoire, tout est mis en place pour qu'elle puisse ressurgir à ce moment-là.
C'est cela. Bon, si vous voulez, Lanzmann avait fait un travail autour des lieux et la mémoire retrouvée. Ce n'était pas vraiment mon objectif premier. Très sincèrement, c'était plus plutôt d'accompagner et d'être un passeur dans ce film. Amener ceux qui n'avaient plus parlé à reprendre la parole, à dire, à se souvenir et à se remémorer un petit peu à la fois des parents, de leur vie, à se souvenir des parents. Il y a une séquence au début qui me paraît pour moi essentielle, qui un petit peu délicate, où après avoir entendu les ex-enfants parler de leur vie à Paris dans des endroits relativement insalubres.
La vie d'avant.
La vie d'avant, mais difficile, dans des quartiers pauvres, une chambre pour 5 personnes, où le père travaille sur la table, coupe les pantalons sur la table, et où on va, les toilettes sont à l'étage. Et puis, il y a une séquence avec une musique et où on revoit tous les parents. Et là, on rend hommage aux parents. Je trouve que pour moi, c'était si vous voulez, dans ce film-là, il s'est passé quelque chose. C'est que je me suis senti porteur de quelque chose et porteur d'une responsabilité et qu'il fallait que j'assume. Vous savez, mes films précédents, je travaillais beaucoup comme historien, géographe en Afrique sur les problèmes de la pauvreté, de la souffrance, etc. Et j'étais à Montmorency à un moment entre deux tournages et il s'est passé une commémoration de la communauté juive de Montmorency et une conférence de Cathy Hazan. C'est là que j'ai connu Cathy Hazan. Cathy Hazan est pour beaucoup dans ce travail, il faut le dire.
Donc une historienne qu'on voit dans le film.
Que l'on voit et qui travaille, qui est partie prenante du film. Elle est dans le film, elle est un démo, 3 ou 4 moments du film. Et après cette rencontre et après avoir écouté la conférence de Cathy Hazan, j'ai eu comme le sentiment qu'il fallait que j'ouvre une grande parenthèse dans mon travail de cinéma documentaire, que j'arrête de tourner en Afrique sur les problèmes de développement, que je consacre un certain temps à ces problèmes d'identité, de mon identité, aussi de ma souffrance d'enfant, etc. Et qu'il fallait que je travaille sur cette question. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Armand, Maurice, Joël, Odette. Et tout de suite, c'est créé une sorte de contact, d'empathie entre nous. Et on s'est d'abord, très sincèrement, j'ai beaucoup écouté. Et j'ai senti qu'il fallait mettre cette parole au centre de la réflexion. Parole retrouvée. Il y a Samy qui dit quelque chose, Samy Dassa, qui est un juif, un juif grec, qui
de
dit
Salonique.
Quelque chose, et qui, de Salonique, et qui me dit « Notre long silence d'enfants de déportés et d'enfants cachés est à interpréter comme une sorte de refus de présence et de communication avec un monde qui nous a refusé la vie en tuant nos parents et en nous obligeant à vivre en reclus. » Et très sincèrement, c'est quelque chose que j'ai gardé constamment en tête, parce que vous n'imaginez pas la souffrance déversée pendant ces 3 ans par toutes ces personnes. Vous n'imaginez pas un instant.
Oui, d'ailleurs, dans le film, à un moment, on vous voit, vous mettez pas en scène, vous intervenez dans le film, on voit des photos de vous et vous expliquez qu'effectivement, il y a eu aussi énormément de souffrance qui vous a été transmise à vous et que vous avez dû porter et que vous avez été envahi par votre film. On le sent, vous avez totalement envahi par ce sujet.
Complètement. Je sentais qu'il fallait qu'il y ait un écho, qu'il fallait comprendre, qu'il fallait accompagner, qu'il fallait écouter et qu'il fallait être un passeur. Je réemploie le terme, c'est-à-dire leur donner la possibilité de le dire eux-mêmes. Et vous savez, on a tourné 150 heures de film et j'ai dû écouter, je crois, une dizaine de fois les mêmes personnes sur des situations similaires. Et le propos, la mémoire se reconstruisait au fur et à mesure. Des éléments nouveaux étaient rajoutés. De telle manière que je prends un exemple. Maurice Zelti, qui a été sauvé dans les Alpes par une famille, la famille Roux. Il raconte que personne ne savait qu'il était juif dans cette famille, qui est typique des enfants cachés, fréquemment en tout cas. Donc problème d'identité quand même majeur. Et que tous les soirs, il se mettait dans son lit, mais il avait tellement froid qu'il quittait son lit et qu'il allait à l'étable entre deux vaches pour dormir parce qu'il faisait plus chaud. Mais ce n'est pas la chaleur physique, c'est la chaleur psychique. Il dit, les vaches connaissaient ma vie, elles connaissaient mes parents, elles savaient que j'étais juif, elles étaient les seules à savoir que j'étais juif. Et ça, c'est un moment typique de remontée de la parole qui a mis un certain temps. Joël Krolik, c'est exactement la même chose. Samy Dassa, qui est donc un juif grec, chaque fois qu'il évoquait sa mère et l'arrestation de sa mère par les nazis et la vue qu'il a eue de sa mère arrêtée, mais Samy s'effondrait. il était en déliquescence, il pleurait. Mais... Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'après toutes nos conversations, la dernière interview, il ne pleurait plus. Et c'est celle qu'on a enregistrée. On a gardé celle-là. Parce que, d'une certaine manière, elle était le résultat d'un lent processus de prise de parole. Samy dit à un moment quelque chose, je voulais être le devenir de mes parents.
Oui, ça, on sent que la plupart des personnages ont pris en charge aussi la vie que leurs parents n'ont pas pu avoir. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de mener leur vie et puis aussi de finalement mener un peu la vie que leurs parents n'ont pas pu avoir.
Absolument. En fait, pendant longtemps, ils n'ont pas parlé, ils ont essayé de vivre. Moi, je crois que c'est ça. Mais ils étaient rongés par la culpabilité, par l'anxiété. Si on garde ces deux termes, culpabilité parce que... Ils n'acceptaient pas le fait de vivre alors que leurs parents étaient morts. Joël Krolik me raconte un moment que dès 45, il est sur le mur de la maison du Renouveau, face à la gare. Ils sont plusieurs, ils attendent. Je dis, mais vous attendez quoi? Mais nous attendons que nos parents reviennent. Mais je lui dis, mais vous imaginez un instant que vos parents aient pu être tués dans les camps d'extermination? Non, on attendait. En réalité, ils n'arrivaient pas à faire leur deuil. Ils n'arrivaient pas à assumer leur deuil. Le deuil a été assumé lorsque le mur à Paris a été mis en place par le mémorial et qu'ils ont vu les noms. À ce moment-là, pour eux, ça devenait un lieu où ils pouvaient venir se recueillir. Mais pendant très longtemps, ils ont cru que les parents allaient revenir ou les paysans qui les avaient gardés. Ils espéraient l'un ou l'autre. Alors certains ont été superbement traités par les paysans. D'autres ont été extrêmement maltraités. Et dans le film, on montre les deux. Joël qui raconte qu'il obtient le certificat d'études premier et les paysans, les léniaux dans toute la ville se promènent avec le certificat en disant « Vous voyez, c'est cet enfant qui vit chez nous avec les larmes aux yeux. » Et de l'autre côté, Léon Tisman qui raconte que son frère a été maltraité, qu'il était souvent dans la niche d'un chien, qu'il avait des blessures. Alors, il n'a pas dit qu'il a été frappé, mais certainement. Et quand son frère est arrivé, dans la maison du Renouveau, maison dirigée par Madame François, Madame François n'a pas pu le garder. Elle a dit à Léon, je suis obligée de l'envoyer en hôpital psychiatrique, je ne peux pas le garder. Et Léon devient psychiatre.
Oui.
J'en dis pas plus, mais il faut voir le film là, parce qu'il y a des choses que je veux laisser en suspens.
Et si alors on suit la construction du film, finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que votre film s'intéresse à la question de l'après, c'est-à-dire au-delà donc de ce parcours de ces enfants qui ne venaient pas de France, qui ont dû se cacher avant la guerre, des 38, les enfants qui ensuite, en France aussi, ont dû se cacher à partir donc des lois de Vichy, qui ont été donc dans ces maisons d'enfants. Si on se penche sur la question de l'après, la question que vous posez au début du film, c'est est-ce que finalement cette vie en maison d'enfants les a soutenus? Est-ce que c'est ça qui les a aidés ou est-ce que ça les a desservis? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une réponse à cette question après
J'ai la question. La question est posée par Cathy, à juste titre, qui dit « Bon voilà, mon deuxième mari a vécu chez son oncle et sa tante et il dit « J'ai beaucoup souffert parce que je n'étais pas dans des maisons d'enfants ». Moi, je donne une réponse quand même qui m'est personnelle, mais je laisse ouvert parce qu'à la fin, il y a toute une structure où on voit d'anciens du Renouveau mais qui reconstituent une famille. Au fond, je pense que ça les a aidés, mais ça les a fait beaucoup souffrir, les deux en même temps. Parce qu'entre eux, ils savaient tous qu'ils avaient vécu des choses similaires, mais ils refusaient d'en parler. Mais ils étaient très durs entre eux. Très, très durs. N'imaginez pas du tout, des relations feutrées, d'entraide, parfois d'amour, mais des relations des fois violentes. Encore qu'il faille faire vraiment la différence entre les maisons d'avant la guerre et d'après la guerre, ce qui est à mon avis différent.
Et en quoi ça diffère
Alors, les premières maisons qui sont mises en place par Lozé, la première maison à Montmorency, qui est ce qu'on appelle la petite colonie, qui a été ouverte par les médecins de Lozé, qui existent depuis donc, 1912, qui se sont déplacés à Berlin en 23, puis après en 34 à Paris, faisaient un travail de médecin. Ils essayaient de diffuser l'hygiène au travers des populations juives qui étaient malmenées dans des quartiers difficiles. Et puis, suite aux événements de 38, la nuit de cristal, qui est un événement tout à fait essentiel.
Oui, vous le montrez bien dans le film, c'est vraiment le basculement, le moment
ça
où
bascule.
Les gens prennent conscience
ça bascule.
Qu'il faut se cacher.
On a retrouvé pour cela des images d'archives grâce au fonds Spielberg, des images d'archives où on voit des synagogues qui sont brûlées, et je trouve que c'est quelque chose, où on voit des nazis devant des synagogues qui sont là, qui attendent et qui font dynamiter une synagogue. Bon, c'est le moment où ça bascule. Les Juifs sont arrêtés, sont envoyés à Buchenwald. Et certains ne peuvent sortir de Buchenwald qu'en prenant le bateau, le Saint-Louis, pour essayer de tenter d'aller à Cuba. Donc c'est le moment où ça bascule. Et à partir de cet événement, nombreux sont les familles juives, allemandes, tchèques, polonaises, qui essaient de mettre leurs enfants, de sauver leurs enfants. On les envoie en France. Et l'OSE se trouve, mais il n'y a pas que l'OSE, il y a d'autres organismes aussi qui travaillent, mais l'OSE surtout, faut dire, se trouve devant un afflux. On cherche des maisons. On a Montmorency, une première maison. On essaie de louer une deuxième maison, un ancien hôtel qui a été magnifique au début du XXe siècle, mais qui a été rafistolé, on va dire. La maison Helvetia, qui est le commissariat de police actuel. On installe des chambres rapidement et il y a un afflux. On dort partout. Donc des enfants arrivent d'Allemagne. Puis après, les enfants du Saint-Louis. Ce fameux bateau errant qui ne peut aller à Cuba et les enfants reviennent. Et puis après, ce qui fait qu'en réalité, dans cette maison, Cathy Hazan fait une distinction comme Papanek de trois groupes. Elle dit qu'il y a un groupe les Robinson qui sont des enfants de sociodémocrates allemands comme Papanek, l'animateur. Certains sont juifs, certains ne le sont pas. Il y a le deuxième groupe, les Cubains, ceux qui sont revenus du bateau, ils sont 27. Et puis il y a les orthodoxes, les religieux, qui sont dans la maison de la chaîne. Et en fait, il y a tellement d'enfants que la Helvetia ne suffit plus, que la petite colonie ne suffit plus. On va louer une maison à Aubonne, la chaîne pour les religieux, et on va louer une maison à Soisy-sous-Montmorency. 300 enfants à peu près sont là, sous la direction de Ernst Papanek, mais il est aidé par Margot Cohn, il faut le dire parce qu'on n'en parle pas suffisamment, Madame Krakowski, et l'aide financière vient de la baronne de Günzburg, le baron de Rothschild. Alors c'est intéressant les deux, la baronne de Günzburg, c'est elle qui finance. 40 000 francs pour louer les maisons, la maison Helvetia. Le baron de Rothschild s'occupe de toute la nourriture. Et il dit, moi, mon seul problème, c'est l'équité entre les enfants. Débrouillez-vous. Cacheroute, pas cacheroute. Papanek est plutôt... Il n'est pas religieux, Papanek. Ce qui l'intéresse, c'est la pédagogie nouvelle, la pédagogie, la méthode, project méthode, etc. Et puis, il réfléchit. Pragmatique avant tout, Papanek. Il se dit, les religieux mangent cachère. Faisons cachère pour tout le monde, c'est le plus simple. Et donc, c'est cachère pour tout le monde. Une petite anecdote. Une des mères d'enfants qu'on a rencontrés à New York, les Canaires, cette maman, c'est une famille aisée à Berlin, ils quittent Berlin. En fait, ils regroupent leurs objets, leurs meubles dans un cadre. Et ce cadre est envoyé à Haïfa parce qu'ils espéraient partir vivre à Haïfa. Ils n'y vont pas à Haïfa. Et leur cadre reste à Haïfa entre 35 et 45. Ils retrouvent tous leurs meubles à la fin de la guerre. Quelque chose d'exceptionnel. C'est symptomatique quand même. Ses parents laissent leur magasin qui a été détruit pendant la nuit de cristal, viennent à Paris. La maman travaille avec l'OSE, elle est cuisinière. Le papa fait des travaux alors que c'était un patron d'une grande entreprise. Non, sauvetage des enfants. Vous voyez, les familles aussi ont été dans le sauvetage des enfants. Il n'y a pas que les institutions, les familles aussi. Et cette femme dit à un moment, on demande, l'OSE demande, est-ce qu'il y a une mère qui veut s'occuper, qui veut faire la cuisine pour tout le monde? Elle lève la main et dit, moi je veux bien. Mais on lui dit, mais comment tu vas faire pour 300 enfants? Pas de problème, je vais prendre mes recettes, je vais augmenter les quantités et ça va aller. Et elle a fait la nourriture. Et les Canaires ont sauvé leurs enfants. Retrouvés aux États-Unis, ils les ont sauvés. Alors que de nombreux enfants, de nombreux parents qui étaient eux au Mans, sont retrouvés arrêtés par les Allemands et envoyés dans les camps. Il y a une deuxième histoire aussi qui est intéressante, c'est sur Irène Curie, que j'ai rencontrée grâce à Cathy Hazan. Irène Curie est la fille du chef d'orchestre Alfred Tokayer. Alfred Tokayer était un très grand chef d'orchestre et compositeur allemand qui a été mis dans l'art dégénéré, donc rejeté par les nazis. Et Irène Tokayer, depuis quelques années, retrouve toute la musique de son père, l'a fait éditer, l'a fait jouer, etc. Exceptionnelle musique, elle est dans le film. Au moment où il y a la lecture des lettres, c'est la musique d'Alfred Tokayer. Et Irène me raconte, sa maman était chrétienne, son papa était juif. C'était compliqué. Alors imaginez les lois raciales de 35, le problème que ça peut poser. Et elle me raconte qu'à un moment, elle est dans une classe, elle écrivait pas très bien, elle n'avait pas une très belle graphie. Et le professeur vient vers elle et lui dit, vous voyez, en parlant aux autres élèves, vous voyez, cet enfant ne peut pas faire les F. Tout le monde le regarde en disant, mais pourquoi ne peut-elle pas faire les F? Mais parce qu'elle a du sang juif dans les veines, elle ne pourra pas écrire correctement. Vous imaginez un petit peu ce propos perçu par une enfant Cathy raconte une autre anecdote d'une enfant que le professeur place à l'avant devant le tableau et en demandant aux autres enfants, mais essayez de repérer dans ce visage des signes particuliers, des signes distinctifs. Le professeur monte le nez, monte le front. Vous savez, c'était la grande époque de l'analyse pseudo-scientifique des races, etc. Et les enfants ne répondant pas, parce que d'abord c'était leur copine, mais parce qu'ils trouvaient ça pas possible. Et le professeur s'énerve en disant « Mais vous ne voyez pas son regard sournois ?» Bon, comment voulez-vous qu'une enfant comme ça qui arrive à Montmorency puisse être bien ? Le nombre d'enfants qui, le premier jour, ne bougent pas à côté de Papanek est impressionnant. Et Papanek leur dit « Mais vous avez un grand parc, allez-y !» « On peut ?»« Mais bien sûr, allez-y, bougez !» C'est votre parc. Papanek aimait bien que tout le monde s'appelle par son prénom. Il aimait bien que les gens l'appellent par le prénom. Et il avait une conception pédagogique très ouverte. Il s'appuyait sur ce qu'on appelait le project méthode. C'est-à-dire il fallait que chaque enfant trouve sa voie par sa propre expérience et par rapport à ses propres qualités. Et c'est toute la réflexion pédagogique des années 30 qu'on retrouve dans cette maison, mais qu'on retrouve aussi dans la deuxième maison. Ce sont des maisons où on développe des projets pédagogiques, mais avec l'intention d'abord de libérer ces enfants, que ces enfants se sentent mieux. N'oubliez pas que ces enfants ont leurs parents de l'autre côté de la frontière et que ce sont par les lettres qu'il y a contact avec les parents. C'est pour ça qu'il y a une séquence. Yvonne Hartwich nous a lu à New York la dernière lettre, la lettre que les parents ont envoyée avant d'être envoyés dans les camps. Et cette lettre-là, elle l'a lue sans pleurer, sans rien. On sentait que les dents se resserraient de plus en plus. Et elle avait la force de pouvoir rendre hommage à ses parents par cette lettre-là. Et cette lettre-là, on l'a mise dans le film.
Alors oui, et pour finir, José Nou, ce qui est très intéressant, c'est que vous évoquez effectivement aussi l'après, c'est-à-dire le moment où ces enfants, après-guerre, une fois qu'on sait, en tout cas que les adultes savent avec certitude que les parents ne rentreront pas, les enfants le savent plus ou moins sans le savoir. Ce que je trouvais intéressant, c'est que, au-delà du tableau idyllique qu'on peint habituellement de ces maisons d'enfants, de cette grande solidarité entre les enfants, etc., vous montrez qu'effectivement, les enfants qui arrivent dans ces maisons sont abîmés. Ils parlent d'eux-mêmes en disant « on était des voyous, on était violents, on était agressifs, on était en colère ». Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'à l'époque, rien n'était mis en place comme on pourrait le faire aujourd'hui, où il y aurait tout un arsenal qui serait mis en place pour accueillir psychologiquement. Et là, on sent que bon, il faut improviser, on ne sait pas comment faire, que les éducateurs développent des méthodes coniques comme ils peuvent. Cette Madame François, on sent qu'il y a aussi une espèce de volonté dans sa manière d'être brusque pour les faire réagir. Vous montrez cette anecdote justement où elle pousse les enfants à réagir, à se révolter. Donc moi, je trouve ça très intéressant dans votre film, cette idée de montrer que voilà, c'est des enfants qui sont quand même vraiment abîmés, très abîmés au moment où ils arrivent dans ces maisons.
Absolument. Et ça, c'était vraiment très important pour moi de montrer que c'était des enfants qui arrivaient abîmés, écorchés, anxieux, avec le désir de se reconstruire, mais surtout le désir de vivre. Mais oui, écorchés, je pense que c'est ça le problème. C'est que ce qui fait que Madame François, qui était aussi une femme pragmatique, hein, était influencée par Makarenko, par Korchak, etc. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'est de redonner à ses enfants une personnalité, leur redonner l'envie de vivre. Bon, vous avez un petit peu raconté l'histoire de Julien, à qui elle dit tous les soirs, Julien, balai. Alors j'adore quand les témoins prennent l'accent de Madame François, parce qu'en fait, ils se délectent, en même temps, ils retrouvent le plaisir de cette femme. Parce qu'il la détestait, mais il l'aimait, beaucoup d'ambivalence, beaucoup de respect pour cette femme.
Alors bon, je pense que maintenant, il faut encourager les gens à voir ce film. Donc, merci encore. Donc, je rappelle, José Nou, que votre documentaire sera diffusé en avant-première au Mémorial de la Shoah le 17 janvier à 19h30 et à Montmorency, au cinéma L'Éden, le 30 janvier à 16h. Je pense qu'il sera après visible à la télévision. Voilà. On mettra tout ça sur le site de l'émission. Donc, c'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.
Et puis, on peut dire quelque chose, le site du film, www.orphelin-shoah-montmorency, où vous avez tout sur le film.
Merci.